en action pour le logement abordable et durable. À l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2024, Action Logement donne la parole aux élus locaux.
Bienvenue de nouveau sur notre plateau dédié, le plateau d'Action Logement, vous le savez, présent chaque année sur le SMCL, au plus près des élus, pour accompagner les transitions et les mutations des territoires. Sur ce plateau, nous accueillons donc des élus, des partenaires et des filiales, mais aussi des parties prenantes pour échanger sur les grands enjeux locaux qui font votre quotidien. L'occasion évidemment de vous faire mieux découvrir notre mission d'utilité sociale en lien avec nos engagements RSE et nos ambitions 2030. Pour cette séquence, je vous propose de partir dans le Nord, dans les Hauts-de-France, dans l'Aisne. Plus précisément avec vous, Thomas Dudebout, vous êtes adjoint au maire de Saint-Quentin, au grand projet, et par ailleurs vice-président du département de l'Aisne. Merci d'être avec nous. Karine Papetti, vous êtes la directrice générale de Claisance Alter Ego, et Joël Leny, le directeur régional d'Action Logement Service dans les Hauts-de-France. Merci à tous les trois. On va parler d'innovation toujours, parce que c'est un peu le fil rouge de ces séquences. Et puis peut-être d'abord et avant toute chose, Thomas Dudebout, découvrir un peu mieux d'abord votre ville et puis les enjeux en termes de logement.
Bien, d'abord, merci beaucoup de votre invitation. C'est toujours important aussi de pouvoir partager nos expériences et pouvoir insister sur les dimensions partenariales que l'on a, nous en tant que collectivité, mais avec des acteurs aussi importants qu'Action Logement et que le groupe Claisance. Saint-Quentin, donc vous l'avez dit, ville dans l'Aisne, c'est la plus grande ville du territoire axonais, 53 000 habitants. Et comme dans à peu près tout le territoire, alors beaucoup dans les Hauts-de-France et dans l'Aisne particulièrement, ville où sur les indicateurs sociaux on est rarement sur le podium national, un taux de pauvreté important et évidemment des grands sujets en ce qui concerne le logement. Et pour aller un petit peu plus loin, l'histoire de cette ville, c'est son passé industriel, l'industrie textile comme dans beaucoup de villes des Hauts-de-France. Alors, dans le Pas-de-Calais c'est l'industrie minière, chez nous c'est plutôt l'industrie textile. C'est des choses qui ont fait extrêmement mal au moment où il y a eu cette désindustrialisation. Et donc se pose pour nous la question de comment on réaménage les espaces, comment on se réapproprie des espaces qui ne donnent pas spécialement envie parce que sites à moitié enclavés dans des quartiers, pollués, donc avec tout un tas de difficultés qui fait que pour une ville, c'est juste insupportable de mener de front plusieurs chantiers parce que c'est pas le sujet d'un périmètre d'un quartier, c'est quasiment réparti un petit peu de manière éparse sur toute la ville. Donc à chaque quartier son sujet, et donc on va pouvoir aborder cet après-midi un quartier très particulier, c'est une ville dans la ville.
C'est ce fameux éco-quartier Maréchal-Juin qui est le premier éco-quartier de l'Aisne. Et ce qui est intéressant, c'est que justement face à cette problématique de réhabilitation de friches, comment est-ce qu'à un moment on décide, j'allais dire, de monter d'un cran? Pourquoi tout d'un coup l'éco-quartier et pas simplement un quartier normal entre guillemets?
Je pense qu'il faut déjà savoir vivre avec son temps. Les questions qu'on se pose aujourd'hui, alors si on monte un petit peu plus loin, mais il y a 5-6 ans, ne sont pas les questions qu'on se posait il y a 20 ou 30 ans. Pour nous, ça a été une opportunité. Alors, on ne va pas se mentir, le fait d'être labellisé éco-quartier, c'est aussi de pouvoir avoir accès à certains types de subventions, et donc on ne s'est pas privé de le faire. Mais il y a aussi une véritable aspiration de nos populations. Le quartier en question, le Faubourg d'Ille, c'est vraiment un quartier qui a un passé industriel où il y a très peu d'espaces de végétalisation, c'est très urbanisé, beaucoup de maisons mitoyennes. Il a déjà bénéficié de grands programmes du NPRU, avec de la réhabilitation de logements pour les particuliers. Ça a fait grand bien. On a réhabilité plusieurs sites. Il y a du commerce, il y a du service. Et il y avait quand même besoin, au-delà de tout ça, c'est se dire un bon environnement, le bien vivre chez soi. C'est pas que le commerce et le service de proximité, c'est indispensable. C'est les questions de mobilité et c'est d'avoir des espaces de respiration et des lieux de rencontre. Et nous, l'éco-quartier, en cela, il nous intéressait énormément, au-delà de la dimension de ce qu'on va y bâtir. Mais tous les espaces partagés, l'aspect lieu public, pour nous, il était indispensable. Et il était d'autant plus indispensable, et ça, on tient beaucoup à cette dimension. Vous avez rappelé que j'étais adjoint au grand projet, mais aussi à la participation citoyenne. Nous, tout ça, on le fait avec les habitants. Il se trouve que, personnellement, je n'habite pas le Faubourg d'Ille, j'y passe beaucoup de temps, mais ce n'est pas mon cas. Je ne suis pas usager futur de cet éco-quartier. Donc c'est avec les habitants qui habiteront le futur éco-quartier, mais qui habitent en périphérie, qu'on a essayé de co-construire tous ces espaces partagés, ces espaces publics, parce que pour nous, ça a beaucoup de sens. Et puis une dimension qu'on va aborder aussi après, qui est la question du vieillissement et de la longévité,
parce que
là, on a beaucoup de sujets à évoquer.
Un éco-quartier, c'est à la fois effectivement de la mixité sociale, du durable, de l'innovation architecturale, et vous allez nous en parler. Mais vous avez fait aussi le choix, peut-être dans le prolongement de ce que vous évoquiez dans cette action citoyenne, de l'intergénérationnel comme un marqueur fort de ce quartier.
Alors, on fait le choix, et je vais aussi rendre à César ce qui appartient à César. Je pense qu'on fait le choix, on nous propose un choix qui nous va très très bien, et c'est plutôt comme ça qu'on l'a vécu. Il se trouve que Saint-Quentin est une ville qu'on appelle une ville amie des aînés. C'est un réseau francophone, c'est porté par l'Organisation mondiale de la santé. On travaille sur l'ensemble des thématiques dans le champ de compétences d'un territoire. La question de l'habitat, c'est central. On sait qu'aujourd'hui, les plus de 70 ans, ils seront deux fois plus nombreux à horizon 2030-2035. Donc on doit bâtir, alors là au sens littéral du terme pour les logements, mais on doit aussi bâtir nos politiques d'avenir. C'est quoi le véritable parcours résidentiel pour la personne âgée ? On sait que le maintien à domicile, c'est le facteur sine qua non du vieillir en bonne santé et du vieillir plus longtemps. Mais le maintien à domicile, c'est pas vivre dans sa maison de famille où on est malheureusement veuve ou veuf, que les enfants ne sont plus là et qu'on n'est plus en capacité de l'entretenir. Donc les dimensions intergénérationnelles, elles viennent s'inscrire dans ce parcours qui permettent de dire « je suis encore à domicile, mais je suis pas tout seul ». Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie forcément de défendre. Et le projet résidence Marianne, pour nous, il correspond parfaitement aux aspirations du territoire. C'est plus seulement la maison ou l'EHPAD, c'est tout l'entre-deux qu'on doit développer sur nos territoires, et on doit le développer aussi pour toutes les populations. Les résidences services seniors, c'est génial, mais c'est pas adapté à tout le monde n'a pas la bourse pour ça. Donc les résidences autonomie, les résidences intergénérationnelles, tout ça on en a besoin sur nos territoires, et on en aura davantage besoin dans les années à venir.
Alors Catherine Papetti, du coup je me tourne vers vous, puisque visiblement en tant que directrice générale de Claisance Alter Ego, dont le siège, me disiez-vous, est à Saint-Quentin, dont l'implication est forte. C'est vous qui avez eu cette idée de construire comme ça, ou de mettre l'accent sur l'intergénérationnel dans cet éco-quartier. Comment ça s'est fait, le projet, et qu'est-ce qu'il a de spécifique et de particulier ?
En fait, effectivement, nous, on est basé à Saint-Quentin, donc dans l'Aisne, et on a fait une étude auprès de nos résidents qui a démontré qu'effectivement, la volonté de nos résidents, c'était de bien vieillir chez soi, en fait. C'est le chez soi qui est important, et de vivre en autonomie le plus longtemps possible. Et c'est fort de ce constat qu'effectivement, on a noué un partenariat avec Maison Marianne pour développer ce type d'offre de résidence intergénérationnelle, et qu'on a proposé sur l'éco-quartier du Maréchal Juin à Saint-Quentin. Parce que pour nous, effectivement, chaque personne, en fonction de sa difficulté ou son parcours de vie, doit trouver sa place dans la société, et ça passe par le logement. Donc la résidence qu'on a bâtie sur cet éco-quartier est effectivement une résidence où l'ensemble des logements sont adaptés au vieillissement et à la perte d'autonomie. C'est aussi important parce qu'en fait, quand on veut bien vieillir chez soi, il faut qu'on puisse être à l'aise pour toutes les actions du quotidien. Et au-delà de ça, on propose effectivement du lien pour rompre l'autonomie, parce que les personnes âgées qui sont chez elles, qui sont souvent seules, ont besoin effectivement d'avoir des échanges et des interactions avec les jeunes, les familles monoparentales. Et ça, c'est le liant de tout ça, c'est notre partenaire effectivement Maison Marianne qui va apporter à travers les animations, les activités, la coordination des activités qui peuvent exister sur la ville de Saint-Quentin. Le but, c'est pas de réinventer la poudre, mais de se servir de ce qui existe sur le territoire pour le monter au sein de cet éco-quartier et faire une émulsion.
Alors, qui dit éco-quartier dit évidemment s'inscrire aussi dans les politiques locales de développement durable, d'avoir un certain nombre d'exigences, de normes de construction. Quelles sont les principales, et de quoi vous êtes le plus fier sur ce quartier, en termes de normes environnementales notamment ?
On est fier puisque c'est la première construction pour nous, effectivement, où on atteint le label E3C2, donc qui est un label assez important en termes d'atteinte carbone. Et effectivement aussi le label biosourcé niveau 2 pour les matériaux qui sont à employer. Donc on est assez fiers de cette résidence, puisque c'est la première pour nous aussi sur notre territoire historique, en plus, qui est Saint-Quentin.
Alors Joël Lenil, le directeur régional d'ALS Hauts-de-France, évidemment c'est un endroit que vous connaissez aussi. Quel a été, au-delà des enjeux évidemment du NPNRU, l'implication, hein, je sais que vous aimez à rappeler qu'il y a à la fois des questions de financement, de réhabilitation, mais aussi de partenariat dans l'accompagnement des politiques de la ville. Quel a été votre rôle sur ce fameux éco-quartier Maréchal Juin ?
Surtout rappeler la notion de partenariat, en fait. Et cette opération et Saint-Quentin illustrent parfaitement le rôle du groupe Action Logement comme étant aux côtés, au service des collectivités locales et territoriales, au bénéfice des entreprises, de leurs salariés. Et ce qui me semble intéressant sur l'opération de cet éco-quartier, c'est la capacité du groupe à répondre à l'ensemble des questionnements que se pose le territoire. En avance de phase sur la décarbonation, ce qui correspond à l'ADN d'Action Logement et à l'obligation que nous avons de tendre vers une démarche RSE ambitieuse, nous sommes également effectivement dans le renouvellement urbain, nous sommes dans Action Cœur de Ville, nous sommes sur les territoires d'industrie, et là on y trouve en fait tous les ingrédients qui justifient, qui légitimisent la présence et un engagement fort du groupe Action Logement. Et derrière cette mixité à la fois fonctionnelle d'usage et intergénérationnelle, on y trouve également, parce que le statut de jeune n'est pas un statut éternel, entre le jeune, l'apprenti, le salarié et celui qui sera à un moment donné en retraite, on a la possibilité de déployer l'ensemble de la gamme des produits et services du groupe.
Alors ce qui est intéressant, je me tourne de nouveau vers vous, c'est qu'on a parlé d'intergénérationnel, mais je crois que dans cet éco-quartier, il y a une forte dimension, et je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, pour les étudiants, la vie étudiante, une antenne de l'université, c'est là où l'intergénérationnel prend tout son sens et où on est peut-être en phase avec les besoins de ces nouvelles générations.
Ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'en fait, on a la résidence intergénérationnelle, mais en plus de ça, donc ça c'est sur un bâtiment, mais en plus de ça, tout l'éco-quartier, il est intergénérationnel. Parce qu'on a du logement classique, on a la résidence intergénérationnelle, on a une résidence étudiante, on a une maison de service aux étudiants, on va avoir un centre de formation, c'est-à-dire qu'en plus, on va avoir, en plus de ce centre de formation, on a aussi un bâtiment tertiaire où il va y avoir de l'activité sur un des fleurons de Saint-Quentin qui est la robot numérique. Donc l'idée aussi d'avoir un petit peu une pépinière d'entreprise. Nous, l'idée, c'est d'essayer de faire se conjuguer tous les âges de la vie, mais aussi toutes les pratiques de la vie. La vie sociale, la vie économique, l'aspect moral aussi qu'on a dans le partage des expériences des uns et des autres. Et tout ça en étant sur un périmètre qui est un micro-quartier à l'échelle de son quartier. J'ai pas les surfaces en tête, mais on est enclavé au milieu de trois rues, c'est pas gigantesque. Et on se retrouve à avoir tous ces usages qui se conjuguent. Et en ça, je trouve qu'on a ramené quelque chose de très pertinent qui est hyper innovant. Pour Saint-Quentin, c'est une vraie première. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de territoires qui ont ce type de modèle. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé de l'âge, etc. J'ai pas parlé. Saint-Quentin, c'est une ville où il y a de plus en plus d'étudiants. On a doublé le nombre d'étudiants en 2 ans. Donc on a aussi besoin d'y apporter des services, d'y apporter des logements. Et donc on a pu répondre à ce besoin avec l'éco-quartier.
Eh bien, c'est pour ça qu'on voulait vous recevoir sur ce plateau avec cette dimension un peu de démonstrateur en fait, des futurs projets de ville qu'est l'éco-quartier. Merci à tous les trois d'être venus. Et je rappelle que ce podcast est évidemment à retrouver sur Radio Territoria, Radio Imo et le LinkedIn d'Action Logement. Merci à tous les trois.
Merci beaucoup.
En action pour le logement abordable et durable, à l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2024, Action Logement donne la parole aux élus locaux.